dédié ce chiour pour la essentiellement pour la Refoua Shlema de Ahava Hadassah Bat Karine Myriam. Je vous cherche la Refoua Shlema, une guérison rapide et complète des attachés. Alors donc, moi je voudrais commencer ce chiour par une histoire. Une histoire. Qui raconte cette histoire-là? C'est Rav Nachman Mbraslav. Donc c'est faire de Maasiot, il rapporte, je crois, 12 ou 13 Maasiot, 12 ou 13 histoires. Ce ne sont pas forcément des histoires qui ont existé, mais qui auraient pu exister. C'est une histoire qui aurait pu être réelle. Et il les raconte parce qu'elles sont profondes. Elles ont un sens, elles signifient, elles sont en relation avec beaucoup de secrets de la Torah, beaucoup de choses très profondes. Et donc, plus on remue ces histoires, plus on les approfondit, et plus on trouve un sens, et plus on trouve un lien très fort avec tous les sodot à Torah. Ça va venir du Braslav. La Torah elle est vaste, hein. Il y a beaucoup de rachamim. Chaque racham, chaque tzadik est une perle. Il a laissé derrière lui quelque chose d'extraordinaire. Et Rav Nachman Mbraslav, il a vraiment laissé. Aujourd'hui encore, on voit que comment sa vie autour de ses sfarim, autour de son nom, et à Ouman, on était à Ouman, à Rosh Hashanah, il n'y a pas très longtemps. Donc, rapporter une histoire qui nous intéresse, sur le sujet que je veux développer du sens de Yom Kippour. Rav Nachman Mbraslav raconte qu'il y avait une fois une reine et une servante qui ont accouché le même jour. La reine, et puis dans le palais, il y avait une des servantes aussi, et bien aussi elle était enceinte. Elles ont accouché le même jour. Et la sage-femme qui a accouché, et la reine et la servante, elle a eu une idée farfelue. Une idée qui vient de je ne sais où, d'échanger les deux bébés. Et c'est comme ça qu'elle a apporté le fils de la servante dans les bras de la reine et le fils de la reine dans les bras de la servante. Et chacune est partie avec son enfant dans les bras et chacune a élevé son enfant selon son rang. Donc la reine a élevé l'enfant de la servante, une éducation royale, une éducation dans le palais, une éducation tout ce qu'il y a de plus haut. Et la servante, elle a élevé comme elle pouvait son enfant, comme toutes les servantes élèvent leurs enfants. Et avec beaucoup de difficultés, et beaucoup de misère, beaucoup d'humiliation, parce que c'est comme ça, c'est le cas dans à peu près toutes les servantes qui travaillent. Et donc, les deux enfants grandissent. L'enfant de la servante grandit en tant que comme un prince. D'accord ? Et plus il grandit, et plus son éducation pèse, plus l'éducation se resserre, plus on le mène sur la voie de la royauté, on essaye de lui inculquer qu'est-ce que c'est un roi, qu'est-ce que ça représente. Et l'enfant que la servante a emporté avec elle, eh bien lui, il a grandi un peu dans la Efkerout, hein, un peu de n'importe comment, dans la rue, avec toutes les fréquentations, les mauvaises fréquentations, et jusqu'à ce qu'il devienne un vrai voyou, un vrai fils de servante, et donc qu'il descend très très bas, il est descendu très très bas. Et le fils qu'a éduqué la reine, elle l'a levé évidemment très 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 bas. Et raconte Rav Nachman que l'enfant que la reine a emporté avec elle, ça commençait à lui peser, toute cette éducation. Comme on dit, la pomme ne tombe pas loin du pommier. comme ça. Donc, c'était le cas. Elle avait entre ses mains une pomme qui était pas très belle et qui n'était pas digne d'elle. Pourquoi? Parce que lui, toutes ces cours qu'il avait, toutes les enseignements qui lui étaient imposés pour qu'il devienne un roi à la hauteur, ça lui pesait. Il ne supportait pas, il n'aimait pas ça. Lui, quand il voyait dehors, il se sentait attiré vers la rue. Il se sentait attiré vers les jeux, vers l'extériorité, le monde extérieur, le monde pour l'amaser. Parce qu'il n'intéressait pas tellement toutes les dirigeants d'un pays, c'était pas son truc. Il ne le sentait pas. Et le fils de la servante, qui a été éduqué dans un environnement aussi qui est très mauvais, eh bien, il est descendu très bas. Mais étant très bas, il était toujours angoissé. Il était mal dans sa peau. Parce qu'il sentait qu'il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas de traîner là où il traîne, de faire ce qu'il fait, de vivre comme il vivait, comme tous les serviteurs, les esclaves. Donc il se sentait mal. Il a grandi dans ce milieu-là, mais même si tu grandis dans ce milieu-là, quand tu viens d'une dynastie royale, quand tu as du sang royal dans tes veines, tu ne peux pas te sentir bien dans ce genre de milieu. Tu ne peux pas. Ça ne correspond pas à tes gènes. Vous comprenez? La vie des parents, la vie intime des parents, la dignité, le rang des parents, il se répercute forcément sur les enfants. Et donc, l'un qui était au palais se sentait attiré plutôt vers la rue, et celui qui traînait dans la rue, il se sentait attiré plutôt, bien qu'il traînait là-bas, parce qu'il devait, c'était son environnement. Mais lui, il aspirait à d'autres choses, des grandes choses. Et comme ça, ils ont grandi. C'est difficile. Jusqu'au jour, dit Rav Nachman Breslav, jusqu'au jour où la servante, la sage-femme, elle a décidé de révéler ce secret. Et avant de mourir, elle s'est dit, je ne peux pas. J'ai ça sur la conscience depuis tellement d'années. Je ne peux pas garder ça pour moi, je dois divulguer. Elle a dit. Elle a adressé une lettre à la reine, elle a adressé une lettre à la servante. Et elle s'est dit, je ne sais pas ce qui m'a pris le jour de la naissance de vos enfants puisque vous avez accouché ensemble. Et ça, elle s'en rappelait, les deux femmes s'en rappelaient. Eh bien, j'ai eu cette idée-là, folle, de changer les enfants. Je voulais vous dire, soulager ma conscience avant de partir. Et donc, la reine, elle découvre qu'elle a l'enfant de la servante, qu'elle a éduqué l'enfant de la servante à la royauté. Elle a élevé au niveau de prince, au niveau de futur roi. Et la servante, elle savait qu'elle avait dans ses bras, qu'elle avait éduqué, qu'elle avait élevé un enfant de la dynastie royale, qui était celui qui aurait dû être le roi aujourd'hui. Donc, évidemment, quand on arrive à ce niveau-là, que les enfants ont grandi, que ce sont des hommes, tu ne peux plus rien faire. Parce que même celui qui était le fils de la servante et qui se retrouvait à la place du prince, à la place du roi, d'accord ? Même s'il sait que son monde à lui, ça aurait dû être le monde de la rue, ça aurait dû être le monde... Mais il sait qu'est-ce qu'il va perdre maintenant. Il a goûté au pouvoir, il a goûté à la royauté, il a goûté à la vie, il a goûté à la vie de roi, à la vie de riche, à la vie des nobles. Il se disait, c'est pas possible que je lâche ça. Bien que je me sens attiré dans la rue, je me sens attiré vers les jeux, vers les voyous, je me sens attiré, j'ai un faible pour ces gens-là. Oui, mais je ne peux pas perdre tout. Dans quelles conditions je vais vivre aussi. Donc il se maintenait comme prince et que ce que la sage-femme a divulgué, c'est uniquement pour casser le roi, Et donc, il n'était pas question qu'on fasse cas. Et l'enfant, qui était éduqué par la servante, qui avait vraiment du sang royal, il se disait, c'est moi le vrai roi, c'est moi qui devrais prendre cette place-là, c'est moi qui devrais. C'est ça à quoi j'aspire. Et c'est là, cette chose-là, elle doit m'être rendue. Et comme ça va naître un conflit entre ces deux personnages. L'un se réclamant être le vrai fils du roi, le vrai successeur. Le roi est mort, vive le roi, c'est moi qui dois prendre sa place. Et l'autre se disait, il est hors de question que je laisse rentrer un intrus dans le palais, car le roi, c'est moi. La seule chose qu'il voulait, c'est se maintenir. En Bouteille, c'est une histoire que ma femme raconte.
Ouais. Moralité.
Et non, je ne fais pas la morale, moi. Je ne suis pas venu vous faire de la morale. C'est vraiment tirer des enseignements. Tirer des enseignements très précieux. On peut comprendre ces deux personnages comme histoire d'humanité. Israël parmi les nations. Israël parmi les nations. Israël, qui a été choisi par Melech Malchéam Narim, par le roi des rois, Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes mes enfants. C'est pas nous qui le disons, c'est Akadosh Baroukh Hou qui s'adressait au Israël. Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes mes enfants. Le reste du monde, ce sont mes serviteurs. Mais vous êtes mes enfants. C'est pas la même chose. Et donc, Israël, il lui est arrivé dans son histoire ce qui lui est arrivé, ses chutes, etc. Il s'est retrouvé loin de sa terre, loin de tout le monde, éparpillé, humilié, comme le fils de la servante. Et à sa place sont venus d'autres, se proclamant comme étant eux, les fils de Melech Malchéam Narim. Le nouvel Israël, le Nouveau Testament, d'accord? Et tout ce que nous connaissons autour de ces deux, ce conflit. C'est un conflit entre Israël et les nations, en réalité, ce qui se passe. Et donc, Israël voudrait reprendre sa place, voudrait retourner à sa place. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est en train de reprendre sa place, puisqu'il a repris son pays. Il a du mal à se maintenir, il est contesté parce que on dit que c'est faux. On le traite d'intrus, alors que les vrais intrus, ce sont ceux qui nous ont précédés et qui sont restés tellement longtemps sur cette terre sans rien faire. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils se disent, eux, héritiers de toute la spiritualité que Dieu a fait descendre sur cette terre. Eux, la continuation de la parole de Dieu. Eux, ils se réclament, ils se proclament comme ça. Seulement, une petite différence, c'est que pour se proclamer, pour s'intégrer dans les pays comme ils se sont intégrés, il a fallu tuer quelques millions de personnes pour se faire accepter. Et une religion qui a besoin de massacrer des innocents brûlés pour pouvoir se faire respecter, c'est déjà, on est déjà dans le shaker. C'est le signe du signal. D'accord? Alors qu'Israël n'a aucune. À part un peuple à un moment précis qui s'est mis à attaquer Israël, pas Israël qui l'a attaqué en premier, c'est Amalek qui est sorti au moment de la sortie d'Égypte et qui est allé attaquer Israël. Et Dieu a dit, puisque vous ont refroidi, vous avez le droit de faire la guerre, mais uniquement avec eux. Je vous permets en aucune manière de vous lancer dans des guerres contre les nations ou des choses comme ça. C'est interdit chez nous, c'est une notion que nous ne connaissons pas. C'est pas pour rien qu'on a le nom de la colombe, qu'on nous a donné la colombe, d'accord? Quoi la Yona? Bon, en tous les cas, le conflit, il est là. Le conflit est international. Qui est le vrai fils du roi? Mais en fait, je vais doucement, progressivement rentrer en profondeur. En fait, ce conflit, il n'est pas seulement entre les nations et Israël. Ce conflit existe aussi dans chaque individu. Chacun d'entre nous, dans chacun d'entre nous, il y a cet imposteur et il y a le véritable et réel fils du roi. Dans chacun, D'accord. Je ne parle pas seulement... l'imposteur, c'est qui ? C'est celui qui essaie d'éloigner le juif. D'accord ? Le plus loin possible de son Shoresh Neshama, de sa de Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Ça, c'est l'imposteur qui a dans l'homme. Il y a le véritable être. Quand on vient le jour de la Brit Mila, on nous fait les you-you-you-you. Il faut savoir que les you-you, ils ne sont pas pour notre Neshama. Les you-you, ils sont pour l'imposteur. Pour celui qui va se faire prendre pour nous pendant toute notre vie. Je ne parle pas forcément d'un chiloni et qui revient et qui doit retrouver son véritable être. Je parle même des gens orthodoxes, des gens Shomrei Torah, Shomrei Mitzvot, comme nous. Il y a en nous un imposteur qui veut nous faire croire que c'est lui et ce à quoi il nous entraîne et ce à quoi il veut nous considérer comme étant lui, le vrai fils, le vrai comportement que je devrais avoir, moi. Et à l'intérieur de moi, il y a un autre être, c'est ma Neshama, d'accord, qui me dit, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que tu dois te conduire, c'est pas cette voie que tu dois emprunter, c'est pas dans cette voie que tu dois vivre, c'est plutôt de cette manière-là, le véritable être. Donc chaque homme, il y a un imposteur, il y a un véritable être. Dans chacun d'entre nous. Oui, bien sûr, il parle à travers le Yetzerara. Le Yetzerara, c'est celui qui va justement faire valoir cet imposteur en nous. D'accord ? Et donc, on est divisé. Quel est le juif qui n'est pas dans un conflit, dans un combat ? Toute sa vie, un juif, il doit mener un combat. Un combat contre qui ? Un combat, justement, c'est l'être réel, le vrai fils du roi qui combat l'imposteur qui veut prendre sa place. Voilà dans quel conflit l'homme est toute sa vie. Vous comprenez ? Et ça, c'est... Lorsque l'homme dévoile en lui sa vraie nature, réelle, alors qu'est-ce qui se passe ? Comme le fils du roi, le vrai fils du roi qui a grandi chez la servante, même s'il traînait dans les bars, dans les cafés, dans la rue, avec les voyous, il aspirait à autre chose. Il se sentait mal, il ne se sentait pas à sa place. Vous comprenez ? Parce qu'il avait du sang royal qui coulait dans ses veines. Donc c'était ça qui le perturbait. Il faut savoir que chaque individu, chacun d'entre nous aussi, lorsque on se laisse aller et on se laisse prendre pour cet imposteur et qu'on s'éloigne, il faut savoir qu'on se sent mal. On a toujours quelque chose en nous qui s'allume et qui nous dit « tu n'es pas à ta place là, c'est pas ce que tu devrais faire aujourd'hui, c'est pas ce que tu devrais penser, c'est pas ce que tu devrais aspirer, c'est pas toi ça ». Et à chaque fois, il y a une voix en nous qui nous parle. C'est justement l'être réel qui est le vrai fils du roi qui parle en nous et qui essaye de se débarrasser de cet imposteur. Vous comprenez ? C'est ça qui se passe. Et donc, lorsque un juif il a des sentiments de tchouva, il veut faire tchouva, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne, il met en valeur cet être-là qui représente sa Neshama, qui représente le vrai fils du roi, parce que le Neshama, c'est un chélek d'Akadosh Baruch Hu lui-même, d'accord ? Et donc, de lui-même, il va sentir des sentiments de tchouva, comme ce roi, comme ce fils-là, qui était très éloigné de tout, de la royauté, il aspirait quand même à la royauté. La même chose, le juif, même s'il est éloigné, même n'importe quel niveau qu'il soit, quand il chute, il aspire tout de suite et toujours à un retour. Comme ce fils du roi. Ce fils du roi qui était entre les mains de la servante. Vous comprenez ce qui se passe ? Voilà ce qui se passe. Donc en fait, cette histoire que Rabbi Nachman Ibrahim raconte, c'est pas seulement une simple histoire. C'est pas seulement le conflit qu'il y a entre les nations et Israël. C'est aussi le conflit qu'il y a entre chacun d'entre nous, chacun d'entre nous a ces deux tendances, l'une qui est vers tendance à aller vers l'imposteur, ce qui n'est pas vraiment nous et qui veut se faire prendre pour nous, et vous avez le véritable être, le véritable fils du roi qui essaye à chaque fois de récupérer sa place. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Alors maintenant, si on veut comprendre encore plus profond la chose là, je vais vous rappeler une notion qu'on avait appris une fois il y a quelques années. On avait appris qu'en vérité, en fait, il y a deux sortes de dimensions. Il y a la dimension linéaire et une dimension circulaire. La dimension linéaire, c'est j'ai pas sur moi, question, voilà. Il y a un point de départ, et je vais tout droit. Et plus j'avance, plus j'évolue, plus j'avance, plus je progresse, plus je m'éloigne du point de départ. D'accord ? Et ainsi de suite, je peux m'éloigner, sans fin. D'accord ? Ça s'appelle la dimension linéaire. Ça veut dire, si vous voulez comprendre ça, c'est toute la vie que nous menons et qui nous voile l'existence de Dieu. On se débrouille bien, on a réussi une affaire, on se dit, ben, je suis pas compétent, je suis fort, je suis bien. D'accord ? On est en bonne santé, on se dit, ben, je me garde en bonne santé, je fais de la gymnastique, je fais attention à ce que je mange, etc. Et tout ça. Et donc on peut tout voiler le point de départ. On peut voiler le point de départ. À un point, des fois, qu'on ne peut plus, tellement loin qu'on ne peut plus retourner. Ça s'appelle la dimension linéaire. C'est tout ce que nous faisons qui peut être permis, hein, je ne parle pas des choses qui sont interdites, tout ce que nous faisons et qui nous voile l'existence de Dieu. Et vous avez la dimension circulaire. La dimension circulaire, c'est laquelle ? C'est l'inverse. Plus on s'éloigne du point de départ, plus on s'approche du point de départ. Et plus on s'éloigne, et plus on s'approche. D'accord ? Ça, c'est la dimension circulaire. Et ça, c'est... On peut comparer ces deux dimensions-là, qui sont rapportées dans l'esprit de Chim, hein, ce que je vous dis, c'est pas des simples petits machals que j'ai inventés. Dans ça, dans l'esprit de Chim, c'est même ce sont des isodos de la Kabbalah, le Kav, le Igoul, sont des notions de Kabbalah. En deux mots, si vous voulez, parce que là, je simplifie et pardonnez-moi si je saute beaucoup de nuances, il y a des millions de nuances. Mais il y a cette dimension du Kav et du Igoul. Cette dimension du Kav, c'est celle qui y va en s'éloignant du Shoresh. C'est la dimension du Igoul, c'est celle qui s'éloigne en se rapprochant du Shoresh. D'accord ? Eh bien, on peut comparer ces deux personnages, l'imposteur et le vrai fils du roi, l'être réel et l'imposteur, on peut les comparer à ces deux dimensions. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui va passer toute votre vie, toute sa vie, à nous éloigner et nous voiler notre Shoresh. Ça, c'est linéaire. Ça, c'est la dimension linéaire. Et vous avez un autre personnage en nous qui va passer toute sa vie à essayer de nous rapprocher de notre Shoresh. Vous voyez ? Et ces deux dimensions-là, elles sont dans l'homme. Et l'homme, c'est lui qui mène le combat. Est-ce qu'il va, en fin de compte, même s'il faute, continuer à se rapprocher de plus en plus, parce que un cercle, ça descend, d'accord ? Mais plus il descend, et plus il s'approche aussi du point de départ, de son Shoresh. Est-ce que l'homme, il va se servir donc de ses chutes pour se rapprocher davantage d'Akadash Baruch Hu, comme disons, d'accord ? Que les zdonotes deviennent des jgagotes, et ensuite deviennent des srouyotes. Donc ça fait un cercle, en fait. On est en train de faire un cercle.
Chouva, c'est un retour.
Chouva, c'est un retour. C'est chou, c'est retourner. Oui, c'est... Mais... Donc il y a le rond, il y a le cercle. La chouva, c'est ça. Ou alors, nous allons nous laisser entraîner par cette dimension linéaire et nous éloigner et ne pas prendre conscience de nos chutes, de nos averot, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, en fait, il attend justement qu'on revienne après une chute. Qu'on revienne après. Des fois, comme on avait dit Shabbat, une avera est dans le projet divin. Et Akadosh Baruch Hu, il attend. En vérité, c'est pas l'avéra qui le dérange. C'est si je réagis mal à cette avéra. Si je dis, après une avéra, que je suis perdu, que je suis un vaurien, que je ne mérite même pas d'ouvrir un séfer, il n'allait prier. D'accord ? Donc on va, on continue dans la ligne. Et on s'éloigne, et on s'éloigne. Alors que Akash Bokrou, lui, c'est pas ce qui le gêne, c'est pas du tout la avéra. Ce qui le gêne, c'est qu'on réagisse comme ça. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on retrouve en nous, qu'on opère ce retour, et qu'on rentre dans la dimension circulaire. Voilà. Vous comprenez comment ça se passe ? Alors maintenant, on va rentrer encore un peu plus profond. La dimension linéaire, on nous dit que c'est Brinat Nukvin, Nekeva. Nekeva. Pardon, circulaire. La dimension circulaire, c'est Nukvin. D'accord ? Circulaire s'appelle Nukvin. Nekeva. Nekeva, c'est féminine, dimension féminine. Donc, pourquoi est-ce que la Nekeva, la femme, la femelle, on l'appelle Nekeva, c'est une lachonne Nekev, la lachonne du trou, d'accord ? C'est, ça nous rappelle justement à cette symbolique, à cette Bechinat Igoul. D'accord ? Donc, la femme, elle représente celle qui doit ramener vers le Shoresh. La dimension linéaire, c'est plutôt une dimension, une Bechinat Dirrin. D'achout, une dimension masculine, linéaire. C'est pas par hasard si les organes qui aident la reproduction, ils sont justement domimes, ils ressemblent justement à ces deux dimensions, le masculin une dimension linéaire, d'accord, et la femme et le féminin une dimension circulaire, d'accord. Pour recevoir le Vlad, pour faire sortir le Vlad, etc. Donc, ces deux dimensions, elles sont faites pour s'unir ensemble, en réalité. C'est-à-dire que l'homme, la nature de l'homme, c'est, si vous voulez, une boîte à projets. Un homme, c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui a plein de choses, plein d'initiatives, qui veut sortir, qui veut courir, qui veut construire. D'accord ? Il veut, il a des projets, c'est une boîte à projets. Donc c'est quelqu'un de linéaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va s'extérioriser comme une ligne droite, comme un cave, d'accord ? Alors que la femme, elle a plutôt une dimension qui est circulaire, c'est-à-dire c'est celle qui va stabiliser. C'est elle qui va stabiliser. C'est-à-dire qu'elle va limiter, si vous voulez, elle va limiter, en restant dans l'infini, elle va limiter l'extensionnisme de l'homme. La manière de s'éclater, la manière de sortir, de projeter la vie, eh bien, elle va limiter ça, elle va stabiliser ça. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on voit pourquoi est-ce que je vous dis l'auto veyot adam levado. Un homme seul, c'est un homme qui se détruit. D'accord ? Une femme seule, jamais elle se détruira. La femme est indestructible. La dimension circulaire, elle est indestructible. La dimension linéaire, elle est destructible. La dimension circulaire, non. Regardez, une femme, vous la mettez le plus bas que vous pouvez, vous la donnez à un goy, etc. L'enfant, il sera juif. L'enfant sera juif quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Mais elle vit comme une goya. L'enfant est juif. Pourquoi ? Parce que justement, cette dimension circulaire est une dimension indestructible. C'est celle qui ramène au Shoresh. Et ce qui nous ramène au Shoresh est indestructible. Comme Israël est indestructible, parce qu'il y a toujours parmi le peuple d'Israël des gens qui opèrent ce retour et qui font cette marche et qui amènent tout le Ham Israël, font mériter tout le Ham Israël entier vers son Shoresh. Indestructible, la bataille. On peut nous faire du mal, mais on ne peut pas nous détruire. On peut faire du mal à la femme, à une femme, on ne pourra jamais la détruire. La preuve, quand la Torah nous dit que son enfant, il sera juif, quoi qu'il arrive, elle veut nous apprendre par là que c'est, elle est indestructible, en quelque sorte. Par contre, l'homme, on peut le détruire. L'auto veyot adam levado. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait ? Il a demandé à ce que les deux s'unissent. Et lorsque les deux vont s'unir, tu vas avoir cette cette dimension qui est de cette boîte à projet qui est l'homme, qui se lance, d'accord, qui se projette, qui veut comme une ligne droite, eh bien, elle va être maîtrisée en s'unissant avec sa femme, elle va être maîtrisée et stabilisée. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on nous dit que le Yisod, la Brit Mila, c'est le Yisod. La Brit Mila, c'est Mila, c'est parmi les Sfirot, c'est Yisod. C'est la stabilité. La stabilité. Comment, pourquoi on appelle cet endroit-là la stabilité? C'est justement un homme qui est attaché à une dimension féminine. Vous comprenez? Alors, moi, je parle d'homme et femme, mais on peut trouver chez un homme qui a une dimension féminine, d'accord? On peut trouver chez une femme qui a une dimension masculine. C'est pas, ça n'a rien à voir avec, non plus avec les sexes, les homosexuels, etc. Rien, absolument rien à voir. Vous avez des gens qui sont réservés, d'accord, qu'on ne voit pas, etc. Et ils ont plutôt une dimension féminine. Le tzadik qui est renfermé autour de lui, qui est toujours en train de travailler son shoresh, une dimension féminine. Et vous avez celui qui va continuer à être shomer Torah mitzvot, mais qui va plutôt entreprendre des choses et construire des choses. Vous comprenez? Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, la femme, on l'appelle Etzem. Et tout doucement, je vais rejoindre Yom Kippour. La femme, on l'appelle Etzem. Comme c'est marqué, Apa'am Etzem me'atzamai. Maintenant, quand l'homme, il a trouvé sa femme, il dit, voilà, j'ai trouvé un os de maison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot Etzem, et c'est que dans la langue hébreu qu'on trouve cette subtilité, parce que c'est une langue tellement profonde, le mot Etzem a deux significations. Il a la signification l'os, d'accord? On dit que la femme vient d'un os. Je ne sais pas si elle vient de l'os ou de la chaussure, mais moi, je dis l'os, ça ne dit pas grand-chose. D'accord? Et vous avez l'essentiel, l'essence. L'essence d'une chose s'appelle Etzem. C'est drôle, pourquoi la Torah donne le même mot pour deux choses qui ont apparemment sont tellement éloignées. Un os et l'essentiel. L'essentiel d'une chose, l'essentiel d'une idée, l'essentiel d'une construction, l'essentiel de Etzem, et vous avez Etzem, l'os. Quel rapport entre l'os et Etzem? En français, dans toutes les langues, os et Etzem, os et essentiel, c'est deux mots différents. En hébreu, en Lashon HaKodesh, c'est le même mot. Pourquoi? Parce que le Etzem, l'os, rabotai. Pourquoi? Quel rapport avec l'essentiel? Parce que l'os, la structure osseuse de l'homme, c'est tout ce qui tient l'homme. Tout ce qui tient l'homme droit, haut, vers le haut. Vers le haut. C'est le atzamot de l'homme, c'est le Etzem de l'homme. C'est l'essentiel de l'homme. Quand HaKadosh Baruch Hu crée Chava, Adam HaRishon va dire Etzem me'atzamai. Ma'apshat. Etzem me'atzamai. C'est-à-dire, voilà, c'est mon essentiel. Voilà, c'est elle qui va être ma amidoti. C'est elle qui va me tenir droit. Sans elle, je m'effondre. Vous comprenez? Ça, c'est le sens de Etzem. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas s'il vient de la chaussure ou d'un os ou de l'oreille. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, l'idée, c'est ça. L'idée, lorsque Adam HaRishon dit voilà mon Etzem, ça veut dire, il a dit, voilà ma matière, mes os, mon essentiel. C'est le Ika, c'est l'essentiel, c'est l'essence qu'il y a en moi, c'est elle. C'est ce qu'il a dit quand il a vu Chava. Etzem, me'atzavai, voilà. C'est le Etzem par excellence de me'atzavai. C'est celui qui va faire tenir tous mes os, c'est elle, c'est ce Etzem-là. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est exactement l'idée qu'on a dit. C'est-à-dire, c'est cette idée-là, que l'homme est dans une dimension, la nature d'un homme, c'est d'aller se projeter très loin, d'accord? Eh bien, on a besoin d'être limité, d'être gardé, d'être stabilisé. Parce que quand, en se projetant trop loin, on peut tomber, on peut se faire mal. D'accord? Donc il faut quelque chose qui l'entoure et qui le protège et qui le maintient droit. C'est les deux, justement, c'est ce qu'on vient de dire, le Etzem, qui est l'amida de Igoul, et l'homme qui est l'amida du Kav. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on trouve le mot etzem dans la femme, et on trouve le mot etzem dans la Brit Mila. Vayamol Avraham et Eno be'etzem hayom hazeh, c'est marqué. Be'etzem hayom hazeh. Dans l'essence de ce jour-là. Qu'est-ce que c'est l'apchat de l'essence de ce jour-là? Justement parce que la mitzvah qu'on va faire avec la Brit Mila, c'est ce qui va donner toute la chashivut au etzem, à l'essentiel. C'est ce qui va être ma'amid, l'homme entier. C'est grâce, parce que justement, il est fait pour s'unir avec le igoul qui va stabiliser l'homme. Donc c'est marqué aussi etzem. Oui. Et ce qui est intéressant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut remarquer une chose intéressante. C'est que le etzem, qui est la femme, qui est représentée par la femme, on la voit, on la voit pas. C'est la seule chose qu'on ne peut pas deviner, même pas de voir sur un corps humain. On peut voir la peau, on peut voir la chair, on voit les grosseurs, on peut voir la chair, etc. Mais les atzamot, on les voit pas. Les atzamot qui tiennent vraiment tout le corps, on ne les voit pas. C'est un peu l'amida, c'est exactement l'amida de la femme. Kol kevoda bat meler, peniba, c'est l'intérieur, c'est la force intérieure. C'est ça, pour ça que la femme s'appelle, elle a été nommée Etzem. C'est la force intérieure. Vous comprenez? Donc la femme saute, c'est la femme qu'on voit dans les magazines. Celle qui veut d'Afka se montrer à l'extérieur, se projeter dans la rue, se projeter dans les écrans, les tableaux, etc. Celle qui veut se montrer, d'accord? C'est justement... C'est la femme qui est sotte, celle qui n'a pas compris son rôle, qui n'a pas compris de quelle dimension elle a été dotée pour pouvoir garder, au contraire, un homme en restant pénima, en restant intérieur, et ce qui permet à l'homme de se maintenir comme un os de squelette permet à un être de se maintenir. Vous comprenez? C'est ça le inyan du Etzem. Alors, ce qui est intéressant, on dit bien aussi que Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalou Israël, à chaque fois que Am Israël allait disparaître, tout à coup on se voit que c'est une femme qui sauve. C'est bizarre quand même. En général, les grands hommes d'action, grands personnages qui font marcher le Am Israël, c'est les hommes. Cher Abénou, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. D'accord? Mais là on voit qu'au moment où on pensait que tout allait s'écrouler, on voit qui va sauver le peuple d'Israël. Qui va sauver le peuple d'Israël? Bisrut Nashim Tzadkaniot. Ma pito. Comment une femme, elle peut faire ce qu'un homme avec ses 613 misot et sa chokhmat à Torah et sa avoda bitfilot, bitfilin, bitahanunim et tout ce que vous voulez, n'est pas capable de faire ça? C'est une femme qui peut, qui est ptoura de tout ça, qui va remettre la situation sur pied? Et oui, bien sûr, parce que justement, le rôle de la femme, c'est celle qui, c'est la chose qui va faire tenir et empêcher l'écroulement. Vous comprenez? Donc, c'est bien ça, le pshat. Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalou Israël. Ça veut dire que justement, c'est la mida de Igoul qu'a sauvé Israël. C'est-à-dire cette mida de quoi? Quand on parle des femmes au moment où Israël est arrivé au même tête char et touma en Égypte, et c'est Bisrut Nashim Tzadkaniot que les femmes, elles ont sauvé le peuple, ça veut dire que c'est qu'il y a eu à ce moment-là la dimension de Igoul. Israël est revenu vers Yitzhak El Hachem, il est revenu vers son Shoresh, comme un Igoul, pas comme un trait qui va et qui s'éloigne à n'en plus finir. Mais au contraire, ils ont opéré un retour. Et c'est pour cela que c'est le mot Teshuvah, c'est Tashuv He. Tashuv He. Retourner He. He, c'est le féminin. He, c'est le féminin. D'accord? Et donc cette dimension-là, cette capacité-là, elle se trouve dans la dimension féminine. Celle de retourner vers Hachem, c'est dans la dimension féminine. Ça s'appelle la dimension féminine. Elle est intérieure, elle est cachée, elle est tsnoua, on ne la voit pas, mais c'est elle qui tient tout. Je crois qu'on dit en français, derrière un grand homme, c'est une grande femme. On va lui dire grande, on peut dire qu'elle est grande. D'accord ? C'est quoi ça? C'est un dicton. Vous savez, les choses qui sont populaires, qui se disent partout, dans toutes les langues, dans tous les peuples, on dit la même chose. C'est ça. C'est ça le sod qu'il y a ici. Le sod. Vous voyez? Donc, il y a un troisième endroit qui est appelé Etzem, pour Yom Kippour. La Torah nous dit Be'etzem hayom azé ve'initem et nafshotechem be'etzem hayom azé. D'accord? Et vous allez faire souffrir votre gouf, votre personne be'etzem hayom azé, dans ce etzem de ce jour-là. Dans le etzem de ce jour-là. Alors, on voit que pour Yom Kippour aussi, on nous dit etzem. Pour la femme, on nous dit etzem. Pour Yom Kippour, on nous dit Etzem. Pour Brit Mila, on nous dit Etzem. D'accord ? Pourquoi est-ce que la Torah emploie le mot Etzem dans Yom Kippour ?
C'est là qu'on va faire Teshuva.
Justement, c'est la journée de Teshuva. Il faut savoir une chose. C'est que on voit que le mot Hasatan, ça fait, je crois, 364. Il y a 365 jours selon l'année solaire. 65 jours. D'accord ? Et il y a une journée, ça veut dire quoi ? On a retiré un jour dans le mot Satan. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le jour de Kippour, le Satan, il n'est pas là. Il est absent. Il ne travaille pas. Il nous reste une journée, et comment on appelle cette journée ? On va l'appeler Etzem. C'est la vraie jour de Etzem qui tient tout. Donc la Torah, elle nous dévoile quelque chose ici. Elle nous dévoile que la journée de Yom Kippour, c'est sur elle que va tenir toute l'année entière. C'est le jour de Etzem. Comme Madame Arishon a dit, tiens, voilà, c'est mon Etzem, ça. Bien, nous disons, dans l'année, dans le Zman, le Etzem existe dans l'homme, il existe dans le Zman aussi. Voilà, cette journée-là de Yom Kippour, c'est le Etzem de l'année entière. C'est ce jour-là qui fait tenir l'année entière. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il va nous dévoiler le Etzem. Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre. Chaque moment, chaque instant, chaque heure qui passe de cette journée-là, on doit apprendre, parce qu'on nous dévoile le Etzem. Vous savez, si on nous dit, voilà, vous rentrez dans un haut tsar, et puis vous ramassez ce que vous voulez ramasser. Est-ce qu'on va commencer à dire, attends, je vais me reposer, je vais dormir un peu, je reviens, je bois. On n'arrête pas. On demande une seule chose, c'est d'avoir suffisamment de sacs et de poches et de kélim pour mettre un maximum. Yom Kippour, c'est la même chose. Yom Kippour, c'est une journée où Akash Boku nous dévoile le Etzem. Il est mis à jour. Donc, c'est une journée où il faut ramasser un maximum de choses. Quand on dit, voilà, le changement horaire, oh, ils nous ont rajouté une heure, on est malheureux. Ils nous rajoutent une heure. Ah, voilà, cette année, c'est avant le changement horaire. Ah, on a gagné une heure, mais on a perdu. Imaginez-vous, la même chose si vous êtes dans un haut tsar et on vous dit, tiens, on vous ajoute une heure. Ouais, on va sortir de joie, n'est-ce pas? On va être triste, bien sûr, on va être joie. On vous retire une heure. Oh, mais c'est nous, on donne. Ben, Yom Kippour, ça doit être exactement la même chose. Yom Kippour, c'est une journée où on peut ramasser chaque moment, s'il est bien dans la tfila, chaque moment, s'il est bien dans les bonnes kavanotes, dans la tshuva, tfila, tshuva, tzedaka, et qu'on vraiment on est entièrement dedans, on est à l'aïnian, ce jour-là, on ne peut pas savoir la richesse et dans quelle on est en train de construire, si vous voulez, pour revenir au Machal, à l'histoire de Rav Nachman Breslav, on est en train de construire le jour de Yom Kippour, notre Etzem, on est en train de construire notre Igoul, on est en train de construire le vrai fils du roi. C'est celui-là. Yom Kippour, on s'occupe de lui. On ne s'occupe pas du tout de cet imposteur qui, toute l'année, avec le Satan, essaye de nous mettre dans une ligne qui s'éloigne. Yom Kippour, on se met plutôt du côté du Etzem, du Igoul, comme la femme représente le Igoul, celle qui tient, le Etzem qui tient la construction. Et Yom Kippour, on va construire. Yom Kippour, on va construire qui ? On va construire son âme. Yom Kippour, on construit, c'est marqué dans la série Makedoshim, dans le Sifrei Chassidut, que Yom Kippour, on construit son vrai être, son vrai moi, sa vraie personnalité, que Akadosh Baruch Hu, il donne de la considération à celle-là. C'est à celle-là qu'on est en train de construire. Comment est-ce qu'on est en train de la construire? Be'etzem ayomaze. C'est un jour qui va tenir toute l'année entière. On l'a construit avec quoi? Avec cinq choses. Tachouvé. Comment on l'a construit avec cinq choses à Yom Kippour? Cinq choses. On ne mange pas. On ne boit pas. On ne s'enduit pas. C'est pas beau. C'est pas... On ne se chausse pas. Et on n'a pas de rapport. Cinq choses. Ces cinq choses-là sont en rapport avec les cinq tefilot. Arvit, Shachit, Mincha, Moussaf, Mincha, Ne'ila. Alors Ne'ila, on nous ouvre la petite porte à l'intérieur du Hotsar. Hein. Bien savoir. Quand on fait Shahare Tirat Shaharim, Shahare Ne'ila, d'accord, et Shahare Ratson, on nous ouvre ça, on nous ouvre la porte à l'intérieur du Hotsar à ce moment-là. Donc c'est là où. C'est très fort à ce moment-là, très 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 fort. On ne s'imagine pas la puissance que ça a. Nous on est là avec nos petits sidouris, mais on dit que ça va finir. Mais en vérité, on ne sait pas là-haut comment ça bouge, comment ça s'agite là-haut. Oui. Là voilà ce qui se passe. Avec ces cinq téfilotes, on va construire notre neshama. Et notre neshama, elle est dotée de cinq membres principaux. Comme il y a les deux pieds. D'accord ? Dans chaque pied, il y a plusieurs membres. D'accord ? Bon, alors, il y a la jambe, il y a le mollet, il y a le pied, il y a les doigts de pied, il y a plusieurs membres. Bon, il y a cinq membres principaux dans la Neshama. Quels sont les cinq membres principaux ? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yerida. Qu'est-ce que c'est Nefesh ? Cinq membres, cinq tfilot, cinq inouïm, tout est lié. Tshuva, Tshuva, c'est retour, c'est le Etsem, c'est la dimension circulaire qui nous ramène à chaque fois au Shoresh. Même si on se rappelle de nos fautes, plus on se rappelle de nos fautes, et plus on s'approche de Dieu. C'est circulaire. Qu'est-ce que c'est le Nefesh? Le Nefesh, c'est toutes mes actions. Mon corps, d'âme, c'est mon sang, tout ce que j'ai commis, tout ce que j'ai agi. N'est-ce pas? Ça, c'est le Nefesh. Qu'est-ce que c'est le rouar? Le rouar, c'est tous mes sentiments que j'ai eus. D'accord? Tous les sentiments, ils viennent d'où? Ils viennent de la Neshama. Nefesh, rouar, Neshama. Neshama, c'est le centre de la Neshama, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est l'intellect, c'est la conscience. Tout ça, c'est des petits membres, mais ça fait partie de Neshama. Vous avez au-dessus, Chaya. Qu'est-ce que c'est Chaya? Chaya, c'est de savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de ma sagesse. Des choses qui sont au-dessus de ma compréhension. Un juif, il doit savoir qu'il y a au-dessus de sa chorma, il y a quelque chose qui est plus fort. Des choses qu'il ne peut pas comprendre. Qui ne lui a pas été donné, on ne lui a pas donné la capacité de comprendre ces choses-là. Ça s'appelle Chaya. Et Yerida, c'est la Messirut Nefesh. C'est-à-dire, on n'existe même pas. Chaya, on peut accéder à Chaya dans ce monde. Yerida, on ne peut pas accéder. C'est-à-dire, une conscience à 100% comme quoi nous n'existons pas, nous ne sommes rien. Devant le Or Ensof, devant Akadosh Baruch Hu, devant même à l'école à Almin, le Ensof, on n'existe pas. On n'est même pas, on est une illusion, on n'est rien du tout, on est un rêve. Il y a un rêve. Il y a plein de personnages, mais il n'y a rien. Voilà. Quelqu'un qui arrive à ce niveau-là. À ce niveau-là, personne ne peut arriver encore maintenant. Chaya, on peut arriver. Chaya, c'est lorsque quelqu'un, il voit des maladies, des injustices, des guerres, des choses qui font souffrir, des choses qui sont injustes, donc qu'on ne peut pas accepter, et qu'on pourrait se demander, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas juste. Eh bien, la personne qui se dit, il y a un maître dans ce monde et il sait exactement ce qu'il fait. Même si je ne comprends pas, il est juste, on est arrivé au niveau de Chaya. Ça, c'est la Emouna. C'est ce qu'on appelle la Emouna. D'accord? Maintenant, arrivé à ce niveau-là d'abnégation complète, de Yerida, ça ne nous est pas encore donné. On est encore matière, on est matériel, c'est pas possible. Donc, à Yom Kippour, avec nos cinq tefilotes, c'est ça qu'on est en train d'arranger. avec nos saintes téphilotes, on reconstruit notre vrai Nefesh. Le vrai fils du roi, il est en train de reprendre sa force. Il est en train de reprendre sa place. Pourquoi ? Parce que c'est pas lui l'imposteur, c'est l'autre. Lui, c'est le réel, c'est l'être réel qu'Akadosh Baruch Hu a créé. C'est celui-là. C'est celui qu'on est en train de construire. Celui qu'on est en train de construire à Yom Kippour. C'est celui-là. C'est cet être-là. Et on le construit comment ? Justement, on voit les Ramazim. C'est cette Neshama qu'on est en train de construire. Par les cinq Inouïm, par la Tshuva, Tashuvé. C'est-à-dire, tu reviens par les cinq Inouïm, par les cinq Tfilot de Yom Kippour. Et comme ça, tu vas arranger les cinq différents niveaux de ta Neshama. C'est la construction de notre Neshama. Voilà qu'est-ce qu'on fait Yom Kippour. Et si on est vraiment entièrement dedans, entièrement dans cette journée, dans le Etzem Ayom Azeh, alors là, on construit une solidité dans toute l'année, une solidité qui va nous tenir jusqu'au Yom Kippour, même plus. Ça, c'est le sens profond du Yom Kippour. Le sens profond du Yom Kippour, on retourne vers le vrai fils du roi, et on se reconstruit, on se refait une petite, bonne, petite nature, d'accord ? On se refait sa Neshama. À Rosh Hashanah, on refait sa structure, si vous voulez, matérielle. On prie, Akadosh Baruch Hu nous donne la vie, qui nous donne la parnassa, qui nous donne la santé, nous donne des choses comme ça. C'est Rosh Hashanah, ça. À Yom Kippour, ça c'est l'essentiel pour Rosh Hashanah. À Yom Kippour, c'est pas ça. À Yom Kippour, c'est notre Neshama.
La Neshama, c'est essentiel.
C'est le Etzem. C'est le Etzem. C'est le corps. C'est l'imposteur, le corps c'est l'imposteur, la Neshama c'est le vrai fils du roi, c'est le vrai sang royal. Et le corps c'est l'imposteur, le corps il va tirer, faire ce qu'il veut, fais pour moi. D'accord ? Toute notre vie, il va nous inciter à nous conduire d'une manière linéaire, nous éloigner du Shoresh. Viens la Neshama et viens nous faire retourner vers le Shoresh. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, la Nefesh Elokit, c'est celle qui s'est achouvée. Et c'est aussi le Shem Havaya, d'accord, qui retourne vers le Shem Havaya, vers son Shoresh. On a parlé ça une fois déjà, la différence qu'il y a entre Nefesh d'un Goy et le Neshama d'un Juif. On l'a déjà dit plusieurs fois. Mais en tous les cas, Rabotai, c'est ça. À Yom Kippour, et c'est un petit peu ça aussi, on explique dans Sferim HaKdoshim, la Seouda qu'on fait avant Yom Kippour, on mange, on boit. Soudat Shlomo Ameler. C'est pas comme Shabé Av, on mange par terre. Non, on mange, mamash, une table royale. Et on nous dit, c'est comme si tu as jeûné 9, et avec ton jeûne de Yom Kippour, et 10. Comme si on avait jeûné 2 jours. Vous comprenez ? C'est quoi ça ? Le 9 Tishri, on s'assoit et on mange. D'accord ? Et le 10, on jeûne. La Torah nous dit, la famille nous dit que quelqu'un qui mange le 9 et qui jeûne le 10, on lui considère comme s'il a fait 2 jeûnes, le 9 et le 10. Pourquoi ? Justement. Ça, c'est le tikkun au niveau du gouffre. On va manger, on va boire, mais en sachant qu'il y a un juge, en sachant qu'il y a un tikkun de la Neshama qui est lié à ça. C'est quelqu'un qui s'assoit à table et qu'il mange et qu'il boit, et qu'il profite de bons plats en sachant qu'il est attaché à sa Neshama, qu'il est lié comme un jour est lié à un autre, à ce moment-là, c'est le tikkun même du Etzem, c'est le tikkun même de l'imposteur. L'imposteur, il se confond et il s'associe avec la Neshama pour devenir qu'un seul. C'est l'homme et la femme qui s'unissent et qui deviennent un seul. La Yule Bassar Echad. Vous comprenez ? Et c'est ça. Yom Kippour, c'est la construction de notre Neshama, uniquement. Rosh Hashanah, c'est la construction de notre vie, toute notre vie matérielle. On demande à Kadosh Baruch Hu de donner la vie pour pouvoir continuer à le servir. Alors qu'à Yom Kippour, on lui demande de redonner l'honneur au vrai fils du roi qui est notre Neshama. Voilà Rabotai. Les petits mots à une vingtaine d'heures de Yom Kippour, 19h30 peut-être maintenant de Yom Kippour, d'accord ? Réfléchissons, méditons dans ce Inyan-là, ramassez chaque instant enrichissez-vous chaque instant de chaque minute de Yom Kippour. Voilà ce que je vous souhaite. Parce que chaque moment de tfila, chaque moment de inouï, chaque moment de tchouva, pour faire Yom Kippour, va construire notre neshama, va construire notre dimension de igoud. Parce que Yom Kippour s'appelle Etzem Ayom Azeh. Le Etzem fait allusion à la femme qui permet de stabiliser le mari qui se lance, qui se projette comme une ligne en s'éloignant de toute racine. La femme vient le maintenir, vient le contenir, le stabiliser. Yom Kippour, il vient justement nous contenir, nous stabiliser pour toute l'année entière. Et Ratzon, Bezrat Hashem, que nous soyons tous de Khatima Tova à Yom Kippour.
Voilà, on dit qu'il faut une collation toute la journée. Oui, 7 pour 7, 17 pour demain. Il y a ça aussi en plus.
Oui. Le Gaon avait besoin de manger toute la journée. Le Gaon de Vilna, il mangeait du matin jusqu'au soir. Toute la journée de RF, du 9 Tishri. Pourquoi ? Parce que justement, tout ce qu'il mangeait, c'était relié à la Neshama, relié au Etzem. Relié au Etzem. Donc ça donne une chachivou, tu fais le tikkun même de l'imposteur. Même l'imposteur, il s'unit, il accepte le fils du roi. Qui vient être la Neshama. Il ne peut être roi que lorsque l'imposteur se plie. C'est ça. Il faut faire plier l'imposteur qui est en nous, Rabotai. Amen, Kani Ratson.